Yeah, totally. Oh my god, yeah.
If I was a sailor man, would you I'd sail and search for on the wheel I steer. I've been in the rain, no storm will take us down. Inspired by the place, I'll never let you drown. I wanna spend the day without this love.
Il est 6h à Paris, 4h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
Une demi-heure d'actualité avec vous et d'abord le journal à la une, Kéfier et banderole hier, place de la République à Paris.
Un rassemblement pour soutenir la flottille pour Gaza et réclamer la libération de ses militants, notamment des Français arrêtés par Israël alors qu'ils se dirigeaient vers l'enclave palestinienne. Israël qui a à nouveau bombardé le sud du Liban. Les autorités parlent d'au moins 17 morts. Dans ce journal, on va revenir aussi sur la visite du sous-secrétaire d'État américain Christopher Landau en Algérie puis au Maroc. Et dans les deux cas, il a notamment parlé du lourd dossier du Sahara occidental. À suivre aussi le Brésil et deux revers successifs infligés par le Parlement au président Lula à 6 petits mois des élections générales. Et puis nous sommes le 1er mai, jour de fête du travail. Et comme à son habitude, la gauche française compte se mobiliser. Oui, mais elle le fera visiblement en ordre dispersé cette fois. Nouvelle destination forcée pour les militants de la flottille pour Gaza, alors qu'ils faisaient cap vers le territoire palestinien ravagé par la guerre pour y apporter de l'aide humanitaire. Leurs bateaux ont été arrêtés par l'armée israélienne au large de la Crète. Ils étaient censés être envoyés vers l'État hébreu. Et bien, ce sera finalement vers la Grèce, a annoncé hier en fin de journée le ministre israélien des Affaires étrangères. Athènes confirme et assure sa volonté de veiller au retour de ces militants dans leur pays en toute sécurité. 175 militants selon les autorités israéliennes, 211 selon les organisateurs de la flottille, 15 Français notamment. Hier à Paris, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la République à l'appel de plusieurs partis de gauche. Pour eux, le gouvernement français doit agir pour obtenir la libération de ces militants. Reportage de Laurence Théo.
Sur une banderole largement déployée, il est écrit en gros caractères « Soutien à la flottille pour Gaza » avec notre camarade Raphaël Primet. Le sénateur communiste Yann Brossa porte l'écharpe tricolore. Il est inquiet quant au sort des militants pro-palestiniens arrêtés.
Parmi ceux qui sont arrêtés, il y a effectivement Raphaël Primet, qui est une élue de la République française, présidente du groupe communiste au Conseil de Paris. Et ce que je souhaite surtout aujourd'hui, c'est que la France s'en mêle, c'est que le gouvernement français protège ses ressortissants qui sont aujourd'hui victimes d'un kidnapping entrepris par un gouvernement étranger, le gouvernement israélien en l'occurrence.
Kéfiée autour du cou malgré la chaleur, Sarah est révoltée par ce qui s'est passé.
Les flottilles de la liberté, on ne peut pas faire plus pacifique comme mouvement. C'est l'idée que nous, société civile, on ne laissera pas enfermer Gaza comme il est enfermé et tuer à petit bruit comme il est en train d'être tué à petit bruit maintenant. Il n'y a pas plus pacifique que les flottilles et l'occupant israélien se permet d'aller les chercher en eau internationale et il n'y a pas de réponse gouvernementale à la hauteur contre ça.
Les politiques à l'initiative du rassemblement ont demandé au ministre des Affaires étrangères d'intervenir immédiatement pour la libération des militants arrêtés par Israël.
Et une dizaine de pays, notamment l'Espagne, la Turquie ou encore le Pakistan, ont publié un communiqué commun pour dénoncer, je cite, des violations flagrantes du droit international par Israël. Position tout autre côté américain qui condamne cette flottille, la qualifiant d'initiative pro-Hamas et de tentative pour saper le plan de paix américain pour la bande de Gaza. Washington se dit même prêt à des représailles contre ceux qui apporteraient leur soutien à cette flottille. Les États-Unis, qui par la voix de leur ambassade à Beyrouth, plaident pour une rencontre entre les dirigeants libanais Joseph Aoun et israélien Benjamin Netanyahou. Alors aucune négociation directe de ce type n'a pour l'heure été fixée, mais un cessez-le-feu est encore en vigueur. Ça n'empêche pas les frappes. Les autorités libanaises parlent d'au moins 17 morts hier dans le sud du pays. Les États-Unis, de leur côté, ont subi une défaite honteuse face à l'Iran. C'est en tout cas ce qu'on peut lire deux mois après le début de la guerre dans une déclaration écrite par le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, que l'on n'a toujours pas aperçu depuis sa nomination, on le dit blessé. Alors là aussi, un cessez-le-feu est en vigueur, mais Téhéran continue de bloquer le détroit d'Hormuz quand les États-Unis, en représailles, imposent un blocus des ports iraniens. À noter, je le disais, que ça fait donc deux mois que la guerre a commencé. 60 jours, c'est justement le délai maximal qu'autorise la Constitution américaine pour mener à un tel conflit sans l'autorisation du Congrès. Si Donald Trump n'obtient pas le feu vert des parlementaires ce vendredi, il est théoriquement tenu de retirer ses forces engagées dans ce conflit. Ce n'est a priori pas ce qui se profile pour le ministre de la Défense, Pete Hegseth. Cet ultimatum n'aurait plus lieu d'être. Le cessez-le-feu, dit-il, aurait suspendu cette horloge de 60 jours. Alors cette perception très américaine du décompte ne change en tout cas rien à ce constat. La guerre et le blocage du détroit d'Hormuz que j'évoquais à l'instant ont fait grimper les cours du pétrole dans le monde entier. Même si c'est vrai, il terminait ses cours en baisse hier soir, il n'en demeure pas moins qu'ils ont atteint des niveaux records ces dernières semaines. Dans le monde entier, les automobilistes s'en rendent bien compte, le prix du carburant augmente. Alors en Allemagne, les autorités annoncent une baisse de ce prix à la pompe, 17 centimes de moins par litre. Mais ça a mis du temps à être annoncé. Les experts critiquent et les Allemands sont assez sceptiques. Correspondance à Berlin de Pascal Thibault.
Je ne crois pas vraiment que ça s'améliore.
Les prix vont encore augmenter. Je ne crois pas à une baisse des prix.
Le scepticisme de ces deux conducteurs est assez répandu. Rien ne garantit que les compagnies pétrolières répercuteront la baisse des taxes sur le carburant de 17 centimes à la pompe, même si les études sur une mesure similaire en 2022 montrent que les prix avaient baissé. Les automobilistes les plus optimistes ont sans doute été refroidis par la hausse inédite depuis le début de la crise actuelle enregistrée hier. Avec 18 centimes de plus pour un litre de gasoil, cette augmentation correspond à la baisse des taxes de 17 centimes à partir d'aujourd'hui, valable jusqu'à fin juin. Les compagnies pétrolières n'ont pas bonne presse.
Je trouve que ça serait mieux si les compagnies pétrolières qui font des super profits étaient mis davantage à contribution que les contribuables.
Une
études montrent que la règle introduite en avril, une seule hausse par jour à midi au lieu de plusieurs, n'a pas été respectée par une station-service sur quatre et la mesure n'a en rien ralenti la hausse des prix, au contraire. La diminution des taxes va coûter 1,6 milliard à l'État allemand. Les experts la dénoncent comme l'économiste Veronika Grimm.
C'est une erreur de baisser les prix dans un contexte de pénurie pour faciliter la consommation et baisser les taxes sans discernement n'est pas efficace.
Malgré tout, les experts s'attendent à ce que les stations-service soient très fréquentées aujourd'hui. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et pour connaître toutes les dernières informations sur la guerre et ses conséquences, notamment sur les prix des carburants, vous retrouvez notre live sur RFI.fr. Toujours pas de revendication au Mali après les attaques d'hier à Bilental et Boni, mais certaines sources locales les attribuent au FLA, le Front de Libération de l'Azawad, ainsi qu'au JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui, dans un communiqué, appelle à un large front commun pour faire tomber la junte au Mali et permettre une transition, je cite, pacifique et inclusive. Le JNIM qui mène désormais un blocus autour de Bamako, notamment sur les routes menant à Kourémalé, Wélé Sébougou et Soribougou. Un blocus pour l'heure sans graves conséquences dans la capitale malienne malgré des risques de pénurie de carburant qui commencent à se faire sentir dans certaines stations-service. Une solution pacifique, oui, mais rapide aussi, plaide le sous-secrétaire d'État américain Christopher Lando. La résolution du conflit au Sahara occidental, dit-il, ne peut pas attendre encore 50, 150, voire 200 ans. Il l'a dit au Maroc, où il a passé deux jours, juste après une précédente étape en Algérie, Sofiane Amazian.
À Alger comme à Rabat, Christopher Lando n'a pas mis de côté le dossier du Sahara occidental. Au lendemain de sa discussion avec le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, le secrétaire d'État adjoint a de nouveau confirmé la position des États-Unis aux côtés du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Je réaffirme la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ainsi que le soutien à la proposition d'autonomie du Maroc comme base d'une solution juste et durable, a-t-il écrit sur X. Durant son voyage en Algérie et au Maroc, Christopher Lando a également insisté sur la nécessité d'une résolution pacifique et rapide d'un conflit qui dure depuis 1975, tout en rappelant que seul le plan marocain est, je cite, le plus juste et durable à ce différent territorial. Les relations entre le Maroc et les États-Unis n'ont fait que se renforcer ces dernières semaines, tant sur le plan économique que militaire, et s'élargit désormais au domaine spatial. Le Maroc devient le 64e pays à adhérer aux accords d'Artemis édités par les États-Unis et dont l'objectif est d'encadrer l'exploration dans l'espace et l'utilisation des ressources.
Roberto Sanchez ne veut plus attendre alors que les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle au Pérou, présidentielle du 12 avril, ces résultats ne sont toujours pas tombés. Eh bien, le candidat de la gauche annonce quand même lancer sa campagne pour le second tour. L'affiche de cette finale est pourtant toujours incertaine. Alors à droite, Keiko Fujimori semble qualifiée, mais pour la deuxième place, c'est très serré. Légère avance, c'est vrai, pour Roberto Sanchez devant l'ultra-conservateur Rafael López Aliaga. Les autorités péruviennes préviennent, il faudra encore au moins 15 jours avant de connaître les résultats définitifs. Le Pérou, la police annonce le démantèlement de deux organisations criminelles liées au gang Tren de Aragua, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis. Une trentaine de personnes, majoritairement originaires du Venezuela, ont été arrêtées, accusées d'exploiter sexuellement des femmes étrangères. Au Brésil maintenant, l'ancien président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, pourrait bénéficier d'une remise de peine. Ainsi en a décidé le Congrès, infligeant un revers à l'actuel chef de l'État, Lula. Deuxième revers du genre en moins de 24 heures, c'est pas forcément bon signe à 6 mois seulement des élections générales, Martin Bernard.
C'est un coup dur pour Lula. Le président brésilien s'était pourtant opposé à un projet de loi qui prévoyait des remises de peine en faveur de Jair Bolsonaro et des autres condamnés pour tentative de coup d'État. Mais le Congrès vient d'annuler le veto présidentiel à une majorité confortable. Cette possibilité est permise par la Constitution. Dans la pratique, la peine de Jair Bolsonaro pourrait être réduite de 6 ans et il pourrait même, selon certaines interprétations du droit, bénéficier d'un régime demi-ouvert dans 2 ans. Ses partisans ont fêté cette victoire et revendiquent à présent le vote d'une loi d'amnistie. Lula a ainsi essuyé une deuxième défaite cuisante en moins de 24 heures. Mercredi soir, le Sénat avait déjà rejeté la nomination de son candidat à la Cour suprême, un revers jugé historique puisque c'est la première fois que cela se produit depuis le 19e siècle. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
C'est aujourd'hui que le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur entre en vigueur. Entrée en vigueur provisoire à la demande de la Commission européenne qui a décidé de faire appliquer cet accord contesté et ce sans attendre la décision de la Cour de justice de l'Union saisie par le Parlement européen. On y revient dans le journal de 5h en temps universel. En attendant, en France, la rémunération des dirigeants de grandes entreprises a augmenté de 3 à 3 fois plus vite que celle des salariés l'an dernier. C'est ce que nous apprend un rapport de l'ONG Oxfam et de la Confédération syndicale internationale. Un rapport publié en ce 1er mai. Ce n'est sûrement pas un hasard, hein. C'est la fête du travail dans le monde entier, mais notamment donc en France, où les partis politiques de gauche en profitent chaque année pour mobiliser leurs militants, même s'ils le feront en ordre dispersé tout à l'heure à Paris, Victorien Guillaume.
D'un côté, les partisans de la primaire qui vont installer plusieurs stands Nouveau Front Populaire 2027, Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain et Lucie Casté sont attendus. De l'autre, le Parti communiste fera bande à part, tout comme LFI, avec Jean-Luc Mélenchon qui devrait être le premier à prendre la parole sur un camion aux couleurs insoumises. Quant à Olivier Faure, sa présence aux côtés de Marine Tondelier et des autres défenseurs de la primaire est incertaine. Est-ce parce que le PS est très divisé sur le sujet ? Il ne faut pas surinterpréter, on fait toujours le 1er mai en région, défend une proche, qui précise que le premier secrétaire du PS se rendra en tout cas pour sûr à Amiens dans la matinée. En face, l'extrême droite aussi sera mobilisée, si on ne sait pas encore qui candidatera à la présidentielle. Marine Le Pen et Jordan Bardella prononceront tous deux un discours dans une salle de spectacle de Mâcon dans le centre de la France pour le traditionnel meeting du RN le 1er mai.
Victorien Guillaume du service politique de RFI.
Gaëtan Plenet.
Merci d'être avec nous. Le retour de l'actualité africaine dans très exactement 17 minutes. D'ici là, on va parler de la radicalisation en ligne à Taïwan. Vous entendrez aussi notre invité culture, Gassira Diagne, co-directrice artistique de la Biennale de la Danse en Afrique. C'est jusqu'à dimanche au Sénégal. Et puis les maladies liées à l'eau, ça ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord direction la Cisjordanie où depuis le 7 octobre 2023, les mineurs sont nombreux à avoir été victimes des violences des soldats et des colons israéliens. Ils sont 230 enfants ou adolescents palestiniens à avoir été tués là-bas. Les conventions internationales prévoient pourtant leur protection, mais sans réel effet visiblement. Reportage à Al-Mourayir en Cisjordanie, Guilhem Deltay avec Mara Cotinier.
Devant une des entrées de l'école d'El-Moureir, une tache marque le bitume. C'est là que Aouzelna Hassan a été tué le 21 avril dernier, quand trois colons ont attaqué le village et ouvert le feu sur l'école. Il avait 14 ans. Sa mère vit aux États-Unis. Il lui a fallu plusieurs jours de voyage pour arriver. Elle se rend pour la première fois là où son fils a perdu la vie et s'effondre. Hussein, lui, était avec Aous, son meilleur ami, quand il a été touché.
Le jour des tirs, j'ai été pris de stupéfaction. Les colons tiraient au hasard sur nous, les habitants et les élèves. J'ai eu peur et je suis parti en courant. Des gens l'ont ramené. J'ai vu que la blessure se trouvait au niveau de la tête. C'était horrible à voir. Je n'ai pas pu le supporter. Je suis resté là, abasourdi.
Hussein porte désormais autour du cou un médaillon en bois avec la photo d'Aous.
Il était comme mon frère, nous étions toujours ensemble. Je ne connais personne d'aussi bien.
Il y a 3 mois, un autre adolescent d'Al-Mourayir a été tué par l'armée israélienne à l'intérieur du village. Ce fut déjà un choc pour la communauté, notamment pour Aouzelna Hassan, se souvient sa tante.
C'était un ami proche de Mohammed et il a dit, si Dieu le veut, moi aussi je vais mourir comme lui.
Tire une larme de tes yeux, après viens déclarer la paix. Tire une larme de tes yeux, après viens déclarer la paix. En silence, docilement, tu prends dans ses coups tout l'amour qui manque. Prends dans ses coups tout l'amour qui manque. Et si c'est ça et s'y faire mal, c'est son rôle, alors on joue bien le nôtre. Oui, si c'est ça, oui, s'y faire mal. Si c'est son rôle, alors on joue bien le nôtre. Si c'est faire souffrir, nous faire souffrir, alors quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Il dit qu'il m'aime de ses yeux. Ses mains ont déjà déclaré la guerre. Il dit qu'il m'aime de ses yeux. Mais ses mains ont déjà déclaré la guerre. En silence, docilement, j'apprends de ses coups et apprends qu'il ment. J'apprends de ses coups et apprends qu'il ment. Et si c'est ça et s'il fait mal, si c'est son rôle alors on joue bien le nôtre. Oui si c'est ça, oui s'il fait mal, si c'est son rôle alors on joue bien le nôtre. Si c'est faire souffrir, nous faire souffrir, alors quand je serai grand j'aimerais pas être père. Quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Et si c'est ça et s'il fait mal, si c'est son rôle alors on joue bien le nôtre. Oui si c'est ça, oui s'il fait mal, si c'est son rôle alors on joue bien le nôtre. Si c'est faire souffrir, nous faire souffrir, alors quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Quand je serai grand, j'aimerais pas être père.
J'ai un petit problème gros, je sais plus quoi écrire. Je crois bien que j'ai plus rien à dire. Ouais j'ai plus rien à dire. J'aurais pu faire encore un de ces morceaux avec des jeux de mots genre village picole. J'aurais pu faire des jeux de mots sur l'alcool. Mais faut que je te dise la vérité. Je me suis dit lève tomber. Je risquerais de me répéter, de faire bis bis. Et après je pisse trop. J'en ai déjà fait trop. Et gros c'est gros. Seule la grime paye. Aucun remords pour les sous l'eau. Chasser le naturel, il revient au boulot. Ouais je garde jamais mon belge contrôle. C'est rien de le dire. Uni pour le meilleur et pour le pire. Je suis le god of boire. Je fais les choses bien. J'ai tellement chardonnay pour toute mon œuvre. Je mérite 20 sur 20. Toutes ces phases j'en ai marre. Tini, imagine bien qu'on m'invitera pas demain au garden party. Je m'étais promis de plus faire ce genre de titre. J'aurais pu te dire que je veux bien boire de tout. Que je suis cosmopolite. Quand je viderai mon cocktail, je resterai sur la paille. Et je finirai sous l'éponge et siffler la rivière Sky. Je me fais la vodka du diable. La parole est à la défonce. Toutes ces phases que j'aurais pu écrire. Mais j'ai plus rien à dire. Ouais j'ai plus rien à dire. J'aurais pu faire comme tout le monde. Balancer du rap technique. Et des couplets où je rappe vite, du genre qui retourne le public. J'aurais pu faire du rap technique qui tape très vite. Des rimes très bêtes, les puristes, du boom bap crédit. Des bars qui pètent comme les presse crépites. Même mec, je préfère les grosses pépettes. C'est pas dans le rap, je veux des vraies pépites. Des rimes de merde qui se répètent, j'évite. Ouais, c'est vite fait. Je laisse les kids kicker sur le premier beat prêt. Je suis un geek et un type vrai, authentique. Ouais, j'ai du beat, mais je balance et je valide que les hits frais. J'aurais pu faire du multisyllabique sur 11 syllabes. Perdu vu qu'il n'y a vite qu'une tromperie de base. Frère, tu suces 10 milliards de bits. Ton style naze, ce n'est qu'une nullissime pratique du compilage. Peu importe si je fais des erreurs, T-Bex. On vient pour foutre le feu à l'ancienne, Silex. On a les dents longues et des grosses queues, T-Rex. Et on va te casser tes lunettes, Skrillex. J'aurais pu faire ce genre de rap tech. J'aurais pu faire toutes ces rimes hashtag. Mais je sais plus quoi écrire. Je crois bien que j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. J'aurais pu te parler du monde. Mais je crois que tout va bien en ce moment. J'aurais pas su de quoi te parler. Et puis ça va de mieux en mieux, non? Je crois qu'on a évité le pire. Et je crois bien qu'il n'y a plus rien à dire. Ouais, j'ai plus rien à dire.
Si vous avez, comme moi, trituré les boutons de votre transistor, vous avez peut-être pu entendre
Principe Actif.
Et si les autorités savaient où se trouve l'émetteur de cette radio clandestine, elles auraient pu interrompre cette émission.
Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.